Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59 sur RMC et il fait beau, Anthony.
Mais oui, c'est un lundi presque printanier sur tout le pays, à l'exception des côtes méditerranéennes et des Cévennes. Là, vous avez des nuages, des averses et un vent assez sensible. Ça va durer toute la journée. Mais ailleurs, effectivement, conditions sèches, ensoleillées, avec juste un voile de nuages entre le sud-ouest, les régions centrales et la Normandie. Les températures, c'est un peu frais dans l'est ce matin. 0 à Nancy, 1 à Strasbourg, 2 à Reims. Mais entre 4 et 15 degrés partout ailleurs. Et dans l'après-midi, température digne d'une mi-avril, avec souvent entre 14 et 18 degrés, 17 à Paris et Strasbourg, et jusqu'à 20 degrés au Pays Basque à Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Vous avez choisi RMC, vous avez bien fait. Très bon lundi à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va faire un point complet dans ce journal sur l'embrasement, encore un peu plus d'ailleurs ce matin au Moyen-Orient, avec l'Iran, encore visé par des bombardements. L'Iran d'ailleurs qui riposte, on va voir ça, et le conflit qui s'étend au Liban, où le bilan est d'au moins 31 morts ce matin. Combien de temps cette guerre va durer? Vous allez entendre Donald Trump, il parle d'une opération de 4 semaines. Et chez nous en France, il y a une réunion qui va commencer dans quelques minutes au Quai d'Orsay. Et Emmanuel Macron qui parlera dissuasion nucléaire cet après-midi depuis une base de sous-marins en Bretagne.
Ce matin, des sirènes d'alerte retentissent dans tout le Moyen-Orient.
Et c'est important de bien comprendre ce qui se passe. On va voir ça avec vous, Romain Houck. Vous suivez la situation depuis très tôt ce matin pour RMC. Ça fait donc 3 nuits que l'Iran est visé par des bombardements. C'est comme ça, en fait, depuis la mort du guide suprême samedi, dans une opération menée par les États-Unis et Israël en Iran. L'info ce matin, c'est donc que l'Iran riposte et mène des frappes dans toute la région.
Oui, des explosions entendues à Doha, au Qatar, à Abu Dhabi et à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le Bahreïn annonce également la mort d'une personne dans des frappes iraniennes après la chute d'un débris. Pourtant, à 5 le nombre de victimes dans les États du Golfe depuis samedi. Des explosions ont également été entendues à Jérusalem après une alerte aux missiles iraniens. Et puis, au Koweït, c'est l'ambassade américaine qui aurait été visée. Selon des journalistes sur place, une épaisse fumée noire s'élève en ce moment du bâtiment. Ne venez pas à l'ambassade, demandent explicitement les Américains dans un communiqué.
Et depuis cette nuit, Romain, il y a le Liban qui est à nouveau entraîné dans la guerre. C'est Israël qui mène des frappes.
Oui, en réponse à des missiles tirés par le Hezbollah, allié de l'Iran, depuis le Liban et en direction du nord d'Israël. Voilà ce que dit l'armée israélienne. Beyrouth, la capitale, est ciblée, en particulier la périphérie sud de la ville, considérée comme un bastion du Hezbollah, et surtout le sud du pays que les habitants quittent par milliers à la hâte. Une habitante que nous avons jointe ce matin témoigne de scènes d'exode, des Libanais qui fuient en famille, à pied, en voiture. Des images montrent d'immenses colonnes de véhicules sur les routes. L'armée israélienne prévient que les frappes au Liban pourraient durer de nombreux jours. Elle a ordonné aux habitants de dizaines de villes d'évacuer au plus vite en prévision de nouvelles frappes.
Et les Libanais parlent ce matin d'un bilan de 31 morts. Donc dans ces frappes menées par Israël, c'est vraiment toute la région qui est concernée. À l'instant, on apprend que la Turquie ferme sa frontière avec l'Iran. Il y a tout un tas de conséquences. Les espaces aériens fermés dans toute la région, pas d'avion Air France, jusqu'à demain au moins. Les navires qui sont priés de se mettre à l'abri, les cours du pétrole qui s'envolent plus 13% à un moment durant la nuit, l'or, valeur refuge, eh bien qui s'est encore envolé de son côté également. Combien de temps ça va durer? Question que tout le monde se pose ce matin. Eh bien Donald Trump, qui est de retour à Washington depuis hier soir, a parlé d'un processus long de 4 semaines.
Les opérations de combat se poursuivent actuellement à plein régime et se poursuivront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. J'exhorte une fois de plus les gardiens de la révolution, l'armée iranienne et la police à déposer les armes et à bénéficier d'une immunité totale sous peine d'une mort certaine.
Également de Donald Trump promet également de venger les 3 soldats américains qui sont morts depuis samedi. Il y a les Européens aussi qui réagissent. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se disent prêts à mener, je cite, des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Le Royaume-Uni dit même qu'il autorise l'usage de ses bases militaires. Il y en a une qui a été visée par un drone à Chypre. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC. Il y a donc une réunion qui va commencer là dans quelques minutes au Quai d'Orsay, au lendemain d'un deuxième conseil de défense présidé hier soir par Emmanuel Macron.
Oui, le chef de l'État a donné 7 consignes. Rehausser notre posture défensive. Toutes les options doivent être examinées, estime Emmanuel Macron, face à des frappes iraniennes jugées indiscriminées et disproportionnées. Il s'agit d'abord d'abord de protéger les forces françaises dans la région. Un hangar sur une base navale a déjà été touché à Abu Dhabi. Mais il s'agit aussi de protéger nos partenaires, les Émirats ou encore le Qatar et les ressortissants français sur place. Comment les rapatrier ? Une réunion au centre de crise du Quai d'Orsay est prévue ce matin. Emmanuel Macron lui prendra la parole cet après-midi sur la dissuasion nucléaire française depuis la base qui abrite nos sous-marins. Un discours prévu de longue date, mais qui prend une toute autre dimension dans ce contexte qui montre que la puissance et l'indépendance sont indispensables, dit-on à l'Élysée.
Oui, et en cas d'attaque nucléaire, eh bien c'est depuis la base aérienne de Saint-Dizier en Haute-Marne que décolleraient les avions Rafale équipés de missiles nucléaires. La France dispose de 300 têtes nucléaires environ. On a consacré près de 7 milliards d'euros à la dissuasion nucléaire l'année dernière. Écoutez à quoi ressemble cet endroit à Saint-Dizier. C'est très intéressant parce que c'est très rare d'y mettre les pieds. C'est Lou Garnier qui s'y est rendu pour RMC.
Des barbelés, des pistes de décollage, des hangars et une cinquantaine d'avions Rafale prêts à décoller à tout instant chargés de missiles nucléaires sur ordre du président de la République, le colonel Mathieu Ponin-Ballhomme.
La dissuasion nucléaire, c'est l'assurance vie de la nation. C'est faire peur pour ne pas avoir à s'en servir. Elle est là pour que la guerre n'arrive pas. On n'a pas droit à l'erreur. On est prêt à ça.
Être prêt à lancer un missile nucléaire, une énorme responsabilité pour les pilotes. Le lieutenant-colonel Lindsay dirige l'un des trois escadrons de la base.
C'est à la fois quelque chose de vertigineux, mais pour lequel on se prépare. J'imagine que c'est un peu la même chose qu'un chirurgien qui opère pour la première fois à cœur ouvert.
Alors l'entraînement est intensif, plusieurs vols par semaine pour ces pilotes, avec des missiles factices, dans des rafales qui peuvent voler à 2000 km/h et à seulement 50 mètres du sol.
On arrive à s'entraîner de manière très réaliste avec des scénarios et évidemment on utilise des avions auxquels on fait jouer le rôle d'ennemi pour nous intercepter et faire des missions de combat le plus réaliste possible.
Depuis 1964, les forces aériennes stratégiques garantissent 24 heures sur 24 leur capacité à agir en cas de menace.
Et alors, hasard ou pas, il y a l'ONG Greenpeace qui bloque depuis très tôt ce matin un cargo dans le port de Dunkerque pour l'empêcher, dit Greenpeace, de décharger sa cargaison, l'accusant de détenir de l'uranium provenant de la Russie, uranium destiné au nucléaire français. Le verdict attendu ce lundi à Paris aux assises spéciales au procès en appel de quatre hommes qui étaient rejugés, notamment pour la campagne de haine qui avait précédé, souvenez-vous, l'assassinat de Samuel Paty en 2001. On en a beaucoup parlé sur RMC. Ce lundi commence le procès de l'ancien patron de la police anti-stupéfiant. Ce sera à Bordeaux, jugé car soupçonné d'avoir favorisé l'importation de drogue en France avec l'aide d'un baron de la drogue, lui aussi jugé. L'affaire remonte à 2015. Elle avait conduit à une réforme de la lutte anti-drogue en France. Constance Bostoen du service police-justice à RMC. Cette affaire est même considérée comme le plus gros scandale d'État en la matière.
Oui, tout débute en octobre 2015. 7 tonnes de résine de cannabis sont saisies par les douanes au pied d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Dans cet immeuble, Sofiane Ambly, un trafiquant notoire, est interpellé. Il explique que la drogue saisie fait partie d'une livraison surveillée par l'Office antidrogue et que depuis plusieurs années, il est l'informateur du patron. L'ancien chef des SUP, François Thierry, est alors soupçonné de favoriser l'importation de la marchandise sur le territoire national avec l'aide du trafiquant, sans en informer l'autorité judiciaire. Des accusations qu'il conteste, assurant que les autorités ont toujours été au courant de ces méthodes et que le but était de réaliser des saisies importantes et d'interpeller les commanditaires. Sofiane Ambly explique de son côté qu'il n'a toujours été qu'un logisticien, lui, qui ne sera pas présent à l'audience car il purge une peine de 30 ans de prison au Maroc.
Après la pluie et le redoux, c'est une nouvelle tempête de sable qui va toucher la France là tous ces prochains jours. Elle arrive du Sahara. Vous vous souvenez de celle de 2022 quand tout le monde avait dû nettoyer sa voiture? On parle là de la même ampleur avec absolument tout le pays qui sera touché. Et le foot, Marseille revient à 2 points du podium grâce à sa victoire 3-2 contre Lyon hier soir. L'Olympico avec un doublé d'Aubameyang dans les 10 dernières minutes qui a permis à l'OM de renverser le match et de l'emporter, donc 3-2, score final.
C'était le journal de Quentin Vinet à 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Et aujourd'hui, c'est avec vous Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour
Le
Apolline.
Conflit qui s'étend donc un peu partout au Moyen-Orient fait craindre une flambée des prix du pétrole. Des conséquences directes évidemment pour nous consommateurs.
Oui, c'est en tout cas ce qu'annoncent plusieurs spécialistes et analystes interrogés sur la question. Le cours du baril de pétrole, le brut, était à $72 vendredi dernier avant le début des frappes. Il a atteint les $80 cette nuit avant de retomber à $76. Mais il pourrait monter rapidement à plus de $100, soit un niveau record record jamais atteint depuis 2022, date du début du conflit en Ukraine. Il pourrait même bondir à 120 $ en cas de prolongation de la guerre et d'embrasement régional.
Quelle est la mécanique? C'est-à-dire comment est-ce que l'envolée fonctionne?
Alors tout d'abord, l'Iran dispose de des troisièmes réserves mondiales de brut avec 3,1 millions de barils produits par jour, dont la moitié est exportée notamment vers la Chine. Si le conflit se maintient et s'intensifie, il sera compliqué pour le pays de produire et d'exporter vers la Chine, ce qui devrait provoquer un déficit de l'offre et une augmentation du prix sur le marché mondial. Ensuite, question géographique, il y a le détroit d'Ormuz, reliant le golfe Persique à l'océan Indien. Ce passage assure le commerce international entre les riches pays du Moyen-Orient et le reste du monde, avec 20 millions de barils de pétrole passant quotidiennement par ce détroit, soit 20% de la consommation mondiale. Ce détroit est bloqué depuis le début du conflit et va lourdement bouleverser le marché pétrolier.
Est-ce qu'on peut imaginer des conséquences sur les prix, un peu comme au début de la guerre en Ukraine, et la question aussi de l'inflation?
Exactement. Pour rappel, en 2022, au début de la guerre en Ukraine, le baril était monté à 100 $ et le prix du litre à la pompe pour les Françaises et Français à 2 €. On peut imaginer la même chose aujourd'hui. Et si le baril monte à 120 $, comme le prédisent certains analystes, on pourrait atteindre les 2,20 € le litre à la pompe, un record historique et absolu. En gros, dans les calculs, dites-vous qu'une augmentation de 20 $ du prix du baril provoque une augmentation en moyenne d'une 20 centimes du litre à la pompe. Enfin, ce qui va compter, c'est la durée du conflit. Pour l'instant, les stocks sont constitués. La France a l'obligation de conserver l'équivalent de 90 jours d'importation. Mais au-delà, il faudra racheter des barils qui vont augmenter, ce qui impactera forcément les prix, l'inflation et donc les consommateurs.
Merci Pierre. Pierre Rondeau, il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera le spécialiste des conflits Alain Bauer, à la fois sur ce qu'il se joue aujourd'hui au Moyen-Orient, mais aussi sur les orientations, la nouvelle stratégie que devrait annoncer Emmanuel Macron un peu plus tard aujourd'hui dans son discours sur la dissuasion nucléaire. Alain Bauer a les toutes premières informations sur le discours d'Emmanuel Macron et ce qu'il faut en attendre. Juste après, ce sera le retour de Nicolas Canteloup, face à Canteloup, en direct à 8h50. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Tous les jours de manche.
Il est 8h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est revenu, Arnaud Demanche.
Et bonjour Apolline. Comme vous êtes jolie, toute de rose poudrée ce matin. Ravi de vous retrouver les amis. Dites donc, c'est fou, je vous laisse une semaine en vacances. Je reviens, c'est la troisième guerre mondiale. Super, je vais quand même essayer de faire des blagues là-dessus. Vous savez que je suis extrêmement exigeant. Pour un humoriste, je suis intransigeant sur les vannes. Dans le métier, on m'appelle l'Ayatollah comédie.
Non !
Vous avez dit, des vannes de qualité, on attaque très fort. Mais avant de parler de la guerre, un petit tour par l'actualité française, c'est important. Le salon de l'agriculture, c'est fini hier. Il y a eu 30% de visiteurs en moins à cause de l'absence des vaches. Je ne savais pas que les Français aimaient autant les vaches, c'est fou. Que les organisateurs ne s'emmerdent pas avec les autres stands, en fait. Autant organiser le salon des vaches l'année prochaine, on gagnera du temps. Vous entendez? C'est le son du plaisir. C'est beau, hein? Ça m'excite.
Témoignage.
Pas vous, hein? Pierre Rondeau, un peu, minimum. Et 5 personnes là-bas ont été jugées pour violence devant un stand de nougat. Alors ça, je vous l'avais dit à Noël. Vous vous souvenez? Il y en a marre des arnaques avec les marchands de nougat. Oui. Ils font exprès de te couper un morceau trop gros. Après, ils te disent, oh, je vais pas le laisser comme ça. Il va sécher. Je suis obligé de vous le vendre maintenant. Voilà. Et tu repars avec 800 grammes de nougat vendu au prix de la truffe. T'arrives chez toi, tu te fais engueuler. Encore? Mais tu viens à peine de réussir à finir les 900 grammes de Noël. Oui, mais c'est trop bon. Regarde, j'adore ça. Au bout d'un moment, les gens s'énervent. Ça bastonne dans les allées, c'est normal. C'est normal. Allez, on passe à un sujet plus léger. La guerre.
Voilà.
Les États-Unis et Israël ont donc bombardé l'Iran. Le guide suprême, l'Ayatollah Khamenei, a été éliminé. Ils ont largué plus de 30 bombes sur sa résidence à Ali. Comment ils ont fait pour le trouver, Ali? Eh ben, ils ont demandé à des passants dans les rues. Votre roi, là, Ali machin, c'est bien ici, sa baraque?
Prince Ali, oui, c'est bien lui.
Ok, bah merci du renseignement, peu à volonté. Il avait 86 ans. Est-ce que c'était utile de lui envoyer 10 bombes à plusieurs millions de dollars chacune, alors que, bon, un agent du Mossad caché derrière une porte, ça aurait suffi, tu vois, il aurait fait bouh, crise cardiaque, gain de temps, gain d'argent, et pour les voisins, c'est
gain
beaucoup
de temps,
plus
gain
simple.
Gain d'argent, j'aime beaucoup cette logique.
Il y avait le suprême de poulet, maintenant il y a le suprême qui est plus là.
Oh non.
Alors, on a mis 24 heures à savoir s'il était mort ou pas, il y avait un doute. Dans la soirée de samedi, le ministre des Affaires étrangères iranien, il a déclaré il est vivant pour autant que je sache. C'est pas hyper rassurant.
Non.
Quand t'appelles l'hôpital pour avoir des nouvelles d'un proche et qu'on te répond il est vivant pour autant que je sache,
non,
autant aller vérifier dans la chambre,
ouais,
quand même.
Mmh.
Et tout le week-end, nos antennes ont été mobilisées sur cette actualité. Tout, partout. Même notre radio musicale RMC Gold. Hein? Et vous êtes bien sur RMC Gold. Et on apprend à l'instant la mort de l'ayatollah iranien. On va lui rendre hommage, on écoute son dernier tube.
Je viens pas de la cité, mais le beat est bon.
Le guide suprême Khamenei est mort.
Ce que j'aime bien, c'est la manière dont ça monte au cerveau.
Ben oui, ça,
ah, de Mathieu.
Bah oui.
Mais non, mais Rondeau l'avait tout de suite.
Il l'a eu tout de suite. Il l'a eu tout de suite. Mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal, cet homme-là, ne serait-ce qu'au rap. Et Donald Trump.
C'est pas gentil.
C'est pas gentil. Non, mais ceci dit, pour le coup, c'était pas mal en plus. Donald Trump a annoncé que les dossiers Epstein avaient malheureusement été détruits lors d'un bombardement iranien. Oh, c'est bête. On les avait pourtant bien rangés sur notre base de Qatar. Oh là là. Tant pis. C'est vrai, c'est dommage. Hein.
Alors, en effet, le régime iranien a riposté en attaquant donc les pays alliés des États-Unis et d'Israël.
Oui, alors j'ai vu, ils ont même envoyé des bombes sur Chypre. Les gars, ils ont fait on y est pour rien. On est Chypre, quoi. Le truc le plus terrifiant qu'ils ont envoyé à un pays étranger, c'est leur candidat à l'Eurovision. Et pas de quoi balancer des missiles. Et puis, Dubaï. Dubaï qui a également été visé, le paradis des influenceuses. Moi, j'ai regardé les lives TikTok de Maeva Genam et Kim Glo. Quand elles essayent d'expliquer la situation à leurs abonnés, c'est pas évident. Hein.
Non.
Salut la commu. Alors, je suis à Dubaï et je vous résume la situation. Alors, en fait, il y a le roi d'Amérique, McDonald Trump, là. Il a décidé de bombarder les Irakiens parce qu'il n'aime pas le régime des Mollahs. Et en fait, tout ça, c'est à cause du conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, en fait. Un conflit parce qu'il a été commis par toute la bande à Gaza, en fait. On ne se rend pas compte. Et là, il y a Tola Kombini, là, le chef en Iran. Il est pote avec le roi des Russes, là, Vladimir Soupline, je sais pas quoi. Et il se bagarre avec le PDG de l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est Mohamed Ben Arfa ou je sais pas quoi. Et ils sont tous là. Ouais, il y a des avions de chasse. Abu Dhabi, je sais pas quoi. Nanani, nanana.
Non,
alors si vous aussi vous êtes un avion de chasse et que vous êtes à Abu Dhabi, eh ben rachetez-vous des nouveaux habits en fait.
Ah oui,
avec mon code promo Maeva 320. Oh putain, encore une explosion. Non, ça va, c'est juste les lèvres à ma coloc, elles ont pété.
Merci de nous tenir informés. Courage à eux.
Ah ouais.
Et à demain.
Arnaud qu'on retrouve tous les jours en podcast ou en tournée à Orange, à Avignon, à Montpellier, à Hyères, à Épinal, à Aix-en-Provence. Disons, il y a des nouvelles villes là.
Il y en a plein.
Oh là là, ça n'arrête pas. C'est un spectacle RMC. Il est 8h19, on part à Nice parce que Alain Marchal et les GG, vous êtes sur place à partir de 9h.
Effectivement, nous sommes en direct ici de la Villa Masséna, à quelques encablures. C'est face à la promenade des Anglais. On attend le public niçois à 9h pour être avec nous en direct de 9h à midi pour commenter l'actualité et parler surtout des élections municipales avec nos confrères de Nice Matin. C'est la guerre entre les frères ennemis, Éric Ciotti, Christian Estrosi, le maire sortant, Éric Ciotti, le challenger, ces deux qui ont fait route politique ensemble au début et qui maintenant sont devenus des adversaires acharnés. Donc on parlera de l'enjeu du scrutin niçois, d'autant plus que Nice, c'est la deuxième ville la plus chère de France au niveau de l'immobilier. Est-ce qu'il est encore possible de se loger à Nice dans le centre-ville? Est-ce qu'il est encore possible d'ailleurs de se loger dans les centres-villes d'une manière générale? Et puis on commentera avec les Niçois, avec nos GG, l'actualité internationale. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du conflit au Proche et Moyen-Orient? La France va renforcer sa capacité défensive. Est-ce que la France doit aller aider ses alliés émiratis et américains? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Nous serons avec Joël Dagosseri, la coach de vie, Charles Consigny, l'avocat, Bruno Poncé, le cheminot, nos confrères de Nice Matin. Nous serons aussi avec une Iranienne qui habite Antibes, qui a défilé pour la liberté. Et elle viendra nous donner son ressenti. Et puis, on terminera en donnant la parole aux Niçois. Voilà le menu de 9h à midi.
Super menu. Et c'est donc à partir de 9h. Merci Alain. Il est 8h21. Dans un instant, le face-à-face. Alain Bauer, le spécialiste des conflits. On va revenir évidemment sur la situation, cette guerre qui s'étend aussi aux autres alliés des États-Unis dans la région. Et puis, Alain Bauer, il a des informations aussi sur ce qu'Emmanuel Macron devrait annoncer cet après-midi. Une nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire. Les informations donc dans un instant. Ça se passe sur RMC et BFM TV. Il est 8h21.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. On suit évidemment minute par minute les événements en temps réel et on vous informe à chaque instant de chaque nouveau développement. Parallèlement, je voudrais qu'on prenne le temps de comprendre avec vous, Alain Bauer, bonjour.
Bonjour.
Ce qui s'est déjà passé, les premières conséquences et les scénarios des prochaines heures. Une attaque considérable et ambitieuse qui pourrait durer 4 à 5 semaines, voilà les mots de Donald Trump cette nuit. Au moment où l'on se parle, et depuis un quart d'heure maintenant, une réunion de crise a lieu au ministère des Affaires étrangères à Paris pour parler notamment de la sécurité de nos ressortissants sur la zone du conflit. Cet après-midi, Emmanuel Macron prononcera un discours très attendu sur l'île longue sur la dissuasion nucléaire et vous allez nous dire dans un instant quelles sont les orientations que pourrait prendre Emmanuel Macron. Mais d'abord, au moment où l'on se parle et depuis quelques heures maintenant, il y a à nouveau des explosions qui ont été entendues en Israël, à Dubaï, à Doha, à Bahreïn, au Liban. Est-ce qu'on peut dire ce matin que le conflit s'est très largement étendu ?
Oui, il s'est étendu comme il devait s'étendre. C'était d'ailleurs l'essentiel du débat qui existe entre les monarchies du Golfe et le président Trump sur il ne faut pas attaquer l'Iran, car toute attaque contre l'Iran ne se limitera pas à une opération en Iran. Ce n'est pas le Venezuela. Ça ne sera pas l'élimination de la tête qui amènerait non pas un effondrement du régime, mais une modification de la politique du régime. Il y aura une réplique structurelle, centrale. Les gardiens de la révolution, ce ne sont pas les bolivaristes dégénérés et corrompus, prêts à être achetés ou vendus au plus offrant. Et il n'y a pas de vice-présidente vénézuélienne prête à jouer le rôle de vice-présidente iranienne.
On va revenir évidemment sur la question d'ailleurs de qui pour diriger l'Iran. Parlons un instant de cette image qui a été diffusée cette nuit par la télévision iranienne d'un conseil de direction intérimaire avec trois personnages. Le président Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire ainsi que Ali Reza Arafi. Ces trois personnages-là, quel est leur pouvoir réel ?
Aucun. Le seul qui compte, c'est celui qui les a nommés, Ali Larijani, le successeur désigné par le guide lui-même après la mort de l'ancien président iranien dans un accident d'hélicoptère, et celui qui est apparu en disant « désormais, il y aura un conseil intérimaire qui sera composé d'eux ». En fait, il a désigné son propre conseil électoral. Il a dit « voilà, ceux qui vont m'élire sont ceux-là, ils vont eux-mêmes référer au conseil des gardiens, au conseil des experts, qui sont les deux outils là des ayatollahs. Les ayatollahs ont trois candidats dans leur tête, le fils du guide qui est considéré comme tellement incompétent que la création d'une sorte de dynastie locale aurait de mauvais éléments, un troisième qui n'est pas identifié, qui serait un ayatollah en tant que tel, et Ali Larijani qui ne l'est pas, qui serait pour la première fois un guide entre guillemets laïque et qui est l'homme qui comptait le plus, à tel point de même d'ailleurs que les Américains avaient exigé lors des négociations d'Oman qu'ils viennent dire que ces négociations étaient de vraies négociations, alors même que le guide Ali Khamenei expliquait qu'il n'y avait pas de négociations. Donc c'est l'homme le plus important, c'est celui qui est allé voir Vladimir Poutine à Moscou et c'est celui qui est en contact avec le président américain, quand le président américain appelle vos confrères de The Atlantic en pleine nuit pour dire non, je parle avec les Iraniens, on est en contact, on continue à négocier, c'est avec lui. Il est le seul représentant légitime du pouvoir survivant actuellement. Les trois autres ne sont que des représentations des illusions.
Ali Larijani, son grade officiel,
président du Conseil suprême de sécurité de la République islamique d'Iran.
Avec évidemment une question qui est que Donald Trump a évoqué également dans la nuit la possibilité de reprendre des négociations. Avec qui ? Des négociations sur quoi ? Et est-ce qu'il y a un préalable pour la reprise de ce dialogue ?
Le préalable à la reprise du dialogue est le même que le préalable qui existait pour finir le dialogue qui avait lieu à Oman et qui a échoué pour des raisons diverses. Un, parce que vous avez d'un côté un pas spécialiste du poker menteur, Donald Trump, ce que je raconte d'ailleurs dans dans le livre sur Trump, et un
Trump,
autre,
le pouvoir des mots.
Voilà, et un autre qui sont des spécialistes des échecs menteurs, c'est-à-dire une stratégie à plusieurs coups avec des mouvements dans tous les sens, mais on a un objectif final. Chez Donald Trump, on a un objectif initial, faire un coup et ensuite obtenir un deal. Il l'a redit d'ailleurs la nuit dernière en disant mais à la fin je veux un deal. Et chez les Iraniens, il y a un objectif qui est ne rien lâcher, mais en faisant durer le plus longtemps possible pour qu'à la fin, on ne sache plus très bien où on va.
Et effectivement, voici les mots des uns et des autres. Cette nuit, le ministre des Affaires étrangères iranien dit « Si leur objectif, c'est de changer le régime, alors je le leur dis, c'est mission impossible. » Et du côté de Donald Trump, on a donné un calendrier, 4 à 5 semaines. Il a d'abord dit 4 semaines, puis à mes confrères du New York Times, il a évoqué 4 à 5 semaines. Est-ce que c'est réaliste ?
Le débat qui existait entre les Américains, 2 semaines, et les Israéliens, 3 semaines, pour finir ce que la guerre des 12 jours n'avait pas réussi à finaliser, puisque les Américains l'avaient arrêté en cours de route pour entamer le processus de négociation, pensant que les 12 jours suffiraient par la destruction des capacités de production nucléaire de 3 sites sur 4, pas le quatrième qui n'a toujours pas été attaqué, et de l'éventualité de la dilution des 400 kilos d'uranium fortement enrichi, reste sur la table. Et c'est ce que les Iraniens ne peuvent pas accepter, parce que c'est leur garantie de survie. Pourquoi est-ce que l'Iran se défend ? Parce qu'ils ont le choix entre mourir ou se battre. Or, le corps des gardiens de la révolution est tellement imbriqué dans l'économie iranienne, tellement haï par la population iranienne, tellement sûr de finir comme Saddam Hussein et ses amis ou Kadhafi et les siens, qu'ils ne peuvent pas négocier, sauf si on trouvait quelqu'un capable d'opérer une sorte de blanchiment du régime d'une manière...
Cette personne existe ?
Ali Larijani. Mais les 30 000 morts, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, on ne sait toujours pas d'ailleurs, de la répression précédente amènent une telle vague de haine contre le régime qu'il s'est lui-même enfermé dans une impossibilité à une démocratisation stable. Par ailleurs, aucune des monarchies du Golfe ne veut jouer le risque du chaos. Et on a pour l'instant le chaos K.O et le chaos CHAOS, et les deux options sont toutes mauvaises du point de vue des voisins de l'Iran.
La question du rôle, effectivement, des autres monarchies, des voisins, on va y revenir, la question aussi de l'extension du conflit plus largement, la question de ce qui s'est passé aussi cette nuit à l'Irak. Au moment où on se parle, les autres pays autour sont en état d'alerte maximale, on va y revenir, mais je voudrais aussi que l'on essaie de comprendre quelle est la stratégie des Européens. Berlin, Paris et Londres se sont dit hier soir prêts, je cite, à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité militaire de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. J'imagine que chaque mot dans cette déclaration compte. D'abord, elle est faite conjointement par Berlin, Paris et Londres. Qu'est-ce que ça dit aussi de cette alliance-là et quels sont les buts ? Est-ce que ça veut dire qu'on, d'une certaine manière, on rentre nous aussi dans la guerre ?
Ben vous avez bien compris la contradiction, parce que du défensif offensif, faut juste choisir entre les deux. La communication générale dans cette affaire entre « j'ai pas été prévenu et je suis pas associé, donc je suis pas là ». Communication du président de la République.
Qui a d'abord dit « nous n'avons pas été associés ». Presque, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc genre, ça ne nous concerne pas,
c'était une déception.
C'était de la rancœur.
Oui, une puissance mondiale présente dans le Golfe, ayant des accords militaires, dont un très contraignant avec les Émirats Arabes Unis, en tout cas Abu Dhabi, sur le thème, on n'est pas au courant. Les Italiens pas plus, que leur ministre de la Défense était lui-même bloqué à Dubaï où il était allé en vacances familiales. Et les Italiens n'ont pas été plus prévenus que les autres, ni par les uns, les Israéliens, et encore
que le
moins...
Le ministre des Affaires étrangères italien de la Défense n'avait même pas en tête que potentiellement, c'était peut-être pas le moment d'aller à Dubaï. C'est intéressant. Ça veut dire que le reproche qu'on fait aussi ici en France, un certain nombre d'influenceurs ou qui...
Celle qui crie au secours après avoir dit le plus grand mal de la France.
Qui pleure effectivement, ou les unes ou les autres. Au fond, vous nous dites que le ministre de la Défense italien lui-même était parti en vacances là-bas.
Voilà, récupérer sa famille. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la France peut faire ? D'abord, elle a des enjeux de défense avec les Émirats. Si les Émirats font jouer l'accord de défense, la France doit répondre à l'accord de défense des Émirats et protéger les Émirats. La France a été directement touchée dans une base commune, pas seulement où elle n'est pas seule, mais cette base a été touchée et elle peut répliquer. C'est légitime, on entre dans le droit de la guerre ou en tout cas de ce qu'il en reste. Troisièmement, toucher des batteries de missiles iraniens à la source, ça c'est une opération offensive.
C'est effectivement détruire. Dans la même phrase, oui, et c'est pour ça qu'effectivement chaque mot compte. Dans la même phrase, il y a le mot action défensive, mais il y a aussi tirer des missiles, enfin empêcher l'Iran de tirer des missiles et des drones à leur source.
Voilà, ça,
et
veut, leur dire source, ça veut dire sur
bombarder
place.
La source des missiles.
Nous interceptons depuis longtemps, y compris dans la guerre des 12 jours, des missiles iraniens dès lors qu'ils passent au-dessus de pays amis ou qui font appel à nous. Ce que les Anglais viennent de faire avec leur tornado sur un missile qui passait au-dessus de l'Irak ou de Chypre, je ne sais plus. Ce que les Anglais peuvent faire parce que leur propre base a été attaquée cette nuit à Chypre. Et vous savez que ce sont des bases de territoire britannique. Ce ne sont pas des bases chypriotes où il y a des Britanniques, mais des bases britanniques. C'est très particulier. C'est-à-dire ce que Donald Trump voulait obtenir au Groenland comme statut spécifique. Et donc là, il y a des opérations. Attaquer à la source l'Iran et autre chose, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce que cette phrase voulait dire, ni ce que ça sous-estimait en termes de risque, alors là, particulier pour devenir une cible directe et pas seulement une cible indirecte. Quant à l'Allemagne, je pense qu'elle a besoin d'exister, que son réarmement est réel, mais qu'elle n'a aucun intérêt ou quasiment aucun intérêt dans la région.
Alors pourquoi le fait-elle ? Pour pouvoir montrer aux Anglais et aux Français qu'elle est avec eux.
Un statut international de niveau global, de type, moi aussi je pourrais être au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a toujours une arrière-pensée quelque part chez le chancelier Merz, comme chez tous les autres chefs d'État.
La question du Liban, la question de Dubaï, Doha, Bahreïn, mais également ce qui va se jouer cet après-midi. Le discours d'Emmanuel Macron a été prévu. Oui. Un discours sur la question de la dissuasion, la stratégie française de la dissuasion nucléaire. Il était prévu, mais évidemment, au regard de ce qui se passe depuis 48 heures, il prend un relief tout particulier. Il va parler de notre dissuasion nucléaire et de la question du partage ou non de cette protection. Vous avez des informations sur les orientations que pourrait annoncer Emmanuel Macron cet après-midi.
Alors, vous me permettrez là de faire précis, comme on fait ça souvent chez vous, mais là, je préfère le lire. D'abord, on modifie un élément central qui est la stricte suffisance de notre parc nucléaire, un peu moins de 300 têtes, à une nouvelle formulation au plus juste niveau.
Ça veut dire qu'il y aura une augmentation du
nombre
d'ogives.
De têtes nucléaires. On en avait environ 300. Les Chinois sont en train de tripler leur parc nucléaire. Les Américains relancent des essais nucléaires. On a un effet de modernisation très engagé sur lequel nous ne sommes pas du tout en retard, notamment de nos missiles issus de sous-marins. Mais la même question va se poser pour la force aérienne stratégique. Le président de la République avait déjà ouvert la voie à Luxeuil il y a quelques semaines. Là, on entre clairement dans une modification de la posture qui est, eh bien non, on arrête de réduire la surface nucléaire. On n'est plus au minimum, on revient à un niveau acceptable, donc augmentation. Il y a un deuxième enjeu qui n'est pas clarifié pour l'instant, on est dans le flou, le brouillard stratégique, qui est-ce qu'on remet en œuvre des armes nucléaires tactiques, dites de théâtre, ou seulement des armes nucléaires stratégiques.
L'arme nucléaire
stratégique, c'est celle dont on ne se sert pas. C'est-à-dire, nous avons une dissuasion, et si vraiment nous sommes attaqués, alors c'est la fin du monde. Et il n'y a rien entre ça et la fin du monde. Nous avions un petit élément intermédiaire qui était l'action préemptive. On est au bord d'une attaque majeure, on lance quand même un petit missile, tout seul, pour dire, attention les gars, on est au bord
de la fin. Ça nécessite d'avoir une sorte de gradation.
De gradation.
C'est-à-dire mais on avait des bombes qui détruisent tout et des bombes intermédiaires?
Non, alors ça c'est pas un niveau de kilotonnage.
D'accord.
C'est un niveau de j'en lance 50 ou 30 ou 20 ou une. Comme ultime avertissement. Cette petite modification de la stratégie avait eu lieu quand on a commencé à éliminer nos armes nucléaires tactiques Pluton et Hadès à l'époque de François Mitterrand. Pour de bonnes raisons, c'est qu'on nucléarisait que nos voisins, les Allemands, à cause d'un problème de portée. Aujourd'hui, on peut avoir des portées plus longues pour des armes nucléaires tactiques. Les Américains sont eux-mêmes en train de moderniser leur parc nucléaire en Europe et ils viennent d'envoyer en juillet dernier les premiers éléments de la modernisation d'armes
donc
nucléaires tactiques en Europe.
C'est important. Ce que vous nous dites, c'est que cet après-midi, Emmanuel Macron devrait, dire qu'on va probablement augmenter le nombre donc de notre stock nucléaire et deux, changer la stratégie pour ouvrir la possibilité d'une sorte de dernier
ça existe déjà. La question c'est ira-t-il un peu plus loin au vu d'événements qui sont en train de se produire là-dessus. Troisième élément, la dissuasion était historiquement un élément extrêmement précis sur l'ultime quand les valeurs essentielles là c'est la dissuasion est gage d'une liberté d'appréciation de parole et d'action pour la France, c'est-à-dire que ça devient un élément de diplomatie et pas seulement un élément de défense. Et la dissuasion interdit à tout adversaire étatique de miser sur le succès de l'escalade, de l'intimidation ou d'un chantage qui cherchera à nous paralyser. On n'est plus dans « nous sommes attaqués par une autre arme nucléaire ou par une arme conventionnelle ». Ça intègre désormais tout ce qui va de la manipulation, la cyberattaque et le reste. Cet élément avait
ça
déjà
veut dire
été avancé.
Cyberattaque pourrait avoir réponse nucléaire.
Oui. Alors, ça avait déjà été avancé et par les Russes, et par les Chinois, et par les Américains lors d'une réunion à Paris à l'école militaire il y a 4 ou 5 ans. Mais c'est la première fois que ça entre dans la doctrine officielle ou dans la supposée doctrine officielle de la France. Et enfin, évidemment, la dissuasion est défensive, mais elle s'octroie le droit de frapper en premier avec une arme nucléaire en appliquant une stratégie d'avertissement nucléaire, ce qui est
le fait de frapper les premiers
d'alerte.
Et ce sera donc prononcé par Emmanuel Macron
enfin,
cet après-midi.
Sur le continent européen, nous revenons à la politique voulue par le général de Gaulle qui, dès le début du commencement de notre système de dissuasion, a toujours indiqué qu'elle n'était pas limitée aux frontières de la France, qu'elle devait intégrer ses voisins immédiats. Alors à l'époque, c'était la Belgique, les Pays-Bas et quelques autres. Et là, on est dans une logique où la France pourrait devenir le garant européen de sécurité nucléaire de l'Union européenne au sens large, sachant qu'il faut faire attention, quelques pays de l'Union ont signé le traité de non-prolifération et donc sont dans une situation un peu plus compliquée que les autres qui sont prêts à avoir une arme nucléaire, à profiter du parapluie de manière ouverte. Donc il y a des petits ajustements qui devront être faits, mais la France là deviendrait le parent de cela, alors même que d'autres pays, dont l'Allemagne, se demandent si elles ne devraient pas disposer de leur propre armement nucléaire, considérant qu'en termes de souveraineté, la France ne partagera jamais la décision.
Ce qui serait effectivement un bouleversement, ce dont vous parlez là, évidemment, c'est d'élargir la protection, mais non pas la décision, c'est-à-dire de ne pas partager le fait d'appuyer sur le bouton.
Cette question-là Alain Bauer, n'a jamais été évoquée.
Question aussi sur la capacité des Américains, des Israéliens, de l'Iran à tenir. Lorsque Donald Trump dit cette nuit 4 à 5 semaines, lorsque l'on voit qu'il y a déjà effectivement 9 victimes en Israël, qu'au moment où l'on se parle, les sirènes ont encore retenti depuis l'aube, à 7h, à 7h38, est-ce que Israël dispose de suffisamment de missiles, anti-missiles? Est-ce que le fameux dôme de fer est encore suffisamment efficace et est-ce qu'il peut tenir 4 à 5 semaines?
Alors, pour l'instant, la réponse est oui, d'autant que l'outil qui avait percé le dôme de fer la dernière fois avec 9 missiles qui étaient des Coram Char 3 améliorés, semble avoir été l'équipement semble avoir été détruit par le raid de B2 dont on se demandait ce qu'ils avaient bien voulu bombarder puisqu'ils n'ont pas attaqué le 4e site nucléaire iranien. Il semble que ça soit l'usine qui fabriquait le Coram Char 4 dont les Iraniens ont eu la gentillesse d'en faire la démonstration le 7 février dernier en donnant quasiment la localisation. Donc il semble que l'élément le plus puissant qui avait permis, y compris d'approcher la base de F-35 israélien de Dimona et la base nucléaire de Dimona ne soit plus opérationnelle, je dis ça sous toute réserve, parce que tout le monde est très étonné qu'il ne soit pas encore sorti. Mais il reste beaucoup de missiles, de moins en moins de lanceurs de missiles, ce qui réduit la capacité à les envoyer, et il reste quand même beaucoup de chaïds, c'est-à-dire des drones, dont l'usage a été quasiment parcimonieux par les Iraniens. Enfin, l'efficacité du double système américain Glaive avec Glaive avec le Lincoln, bouclier avec le Gerald Ford, a permis quand même d'éliminer plus de 90% des drones. Beaucoup des explosions qu'on entend sont des explosions parce que les drones et les missiles sont détruits en plein vol et qu'il y a des débris qui tombent ici ou là. Il y a eu un seul désastre en Israël, là où il y a eu les 9 morts, mais pour l'instant, le reste est plutôt particulièrement efficace en termes de défense antimissile. La vraie question qui nous reste, c'est ce que vont faire les Chinois, dont personne ne parle. C'est un des sujet, comme vous le savez, que j'aborde beaucoup dans un autre sujet qui est le retour de la Chine comme superpuissance. Et il se trouve que les Chinois ont envoyé un groupe naval, dans le Golfe, à proximité, avec un bâtiment de renseignement, qu'ils ont fourni 2000 tonnes de chlorate de potassium pour fournir les moyens de lancer des missiles, qu'ils ont envoyé des équipements antimissiles et des équipements de radar en Iran, et qu'ils sont très fortement engagés, y compris à un point dont on se demandait jusqu'où il irait. Et cette question n'est pas encore résolue, car il y a une fenêtre d'opportunité chinoise sur Taïwan qui est en train de s'ouvrir, car si les Américains ont de quoi tenir 4 semaines en munitions et en équipement, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues disent, parce qu'ils s'y sont préparés, qu'ils ont doublé les chaînes de production et qu'ils sont en situation, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de gérer 2 théâtre d'opération en même temps.
Et c'est évidemment la question si d'autres voulaient en profiter. Merci Alain Bauer d'avoir fait le point avec nous. Et d'ailleurs, vous évoquez la Chine. Votre dernier livre, ça s'appelle Chine, la revanche de l'Empire. C'est chez Fayard. L'édition spéciale continue, bien sûr, sur BFM TV. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Alain Bauer était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Alain Bauer.
Ah, bonjour.
Nous avons évidemment parlé de l'Iran. Emmanuel Macron est avec nous. Bonjour Monsieur le Président.
Hey, bonjour. Mais oui, c'est la guerre, je remets les lunettes de Top Gun. Ça a bien marché la dernière fois, vous vous souvenez, hein? Waouh, wow. C'est mon look warrior, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Wow. Oh, un avion de chasse. Mais non, c'est vous, Apolline. Ça fait plaisir, un petit compliment comme ça.
Oui, bon, allez, hein? Monsieur le Président, un peu de sérieux tout de même, c'est la guerre.
Oui, pardon, vous avez raison, revenons. Redevenons sérieux, il y a Alain Bauer face à nous. À ce sujet, j'ai décidé de mobiliser en urgence tous les réservistes. De la gendarmerie, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. Comme Monsieur Bauer, qui est colonel de réserve de l'armée de l'air. Il faut le savoir, même si c'est vrai que quand on l'entend parler sur tous les plateaux, la réserve, c'est pas trop son truc. Hein. Bref, les réservistes mobilisés auront pour mission de sécuriser les sites stratégiques français les plus importants, c'est-à-dire les ronds-points.
Les ronds-points, c'est-à-dire comment ça, l'armée va sécuriser les ronds-points?
Bah écoutez, vu comme ça pète de partout au Moyen-Orient, demain on va se retrouver avec le litre d'essence à 5 euros. Ah. Hein, et puis la suite, on la connaît, c'est le retour des gilets jaunes sur les ronds-points, les banderoles, Macron démission. Donc, je pensais avoir faire une dernière année sympa, mais là, Trump est en train de tout me saloper. Mmh. Hein. Quoique, finalement, l'international, c'est quand même le truc où je brille le plus. Hein, l'avion de chasse.
Eh bien, merci, monsieur le président. Alain Bauer, justement, vous souhaitiez ajouter quelque chose au sujet de l'Iran?
Écoutez, je souhaitais simplement rappeler que ce que fait Donald Trump était totalement prévisible. Et à ce propos, je ne comprends pas que tous les experts se soient fourvoyés à ce point. Et d'ailleurs, je l'explique dans mon prochain livre, tous des cons sauf moi.
Non mais vous avez quand même dit il y a quelques semaines que vous pensiez que Donald Trump n'attaquerait pas forcément l'Iran parce qu'il n'y avait rien à y gagner.
Ah mais Trump n'a pas attaqué l'Iran.
Ah.
Trump a juste frappé.
Ah oui.
Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je l'expliquerai dans mon deuxième prochain livre qui s'intitule « Comment avoir réponse à tout pour les nuls ».
Eh bien, merci Alain Bauer, Sébastien. Ce matin, Pascal Pro est avec nous pour les titres. Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour Apolline et surtout bonjour Alain Bauer, toujours souriant. C'est vrai que dès que ça pète dans le monde, il a la moustache qui frise en pensant au 78e livre qu'il va sortir. Alain Bauer, spécialiste comme nous à CNews du monde arabe. Enfin, nous sommes spécialistes des Arabes au sens large. Je dois vous avouer que j'ai passé un excellent week-end, chère Apolline, cher Alain. Les frappes sur l'Iran, plus le régime des Mollahs qui riposte en attaquant tous les autres pays du Golfe, ça m'a fait un bien fou. Les Arabes se font la guerre entre eux, c'est formidable. Quelle semaine qui s'annonce. Allez, c'est parti pour les titres. Après que Dubaï ait frappé les représailles, après que Dubaï ait été frappé par la représailles iranienne, la France a fait savoir qu'elle était prête à rapatrier tous ses ressortissants, sauf bien sûr les influenceuses. L'Iran a donc confirmé la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Une victoire pour Donald Trump qui aurait chanté Khamenei, la coupe à la maison. Allez les gars, c'est facile.
Merci beaucoup, merci Pascal Pro. Donald Trump a donc attaqué l'Iran et il est avec nous ce matin pour en parler.
Hey, bonjour Pauline de Malherbe, Chine de Malherbe. J'ai gagné, c'est moi, j'ai éliminé l'Ayatollah Khomeini. J'ai été obligé d'employer la force parce que les Iraniens ne savent pas négocier avec moi. Et aucun effort, et pas pour proposer de m'offrir un avion présidentiel gold, pas proposer de terrain pour construire un club de striptease à Téhéran,
ah oui.
Même pas une petite stormie dans un local.
Ah oui, bon, ils savent pas y faire avec vous, dis donc.
Mais c'est pas ma faute. C'est l'affaire Epstein. Et comme on en parlait trop, il fallait attaquer l'Iran pour faire diversion, tu vois. Comme j'avais déjà fait avec Maduro, Venezuela ou avec le Groenland. Alors voilà, maintenant, vous le savez, si vous voulez la paix dans le monde, c'est simple. Arrêtez de parler du dossier Epstein.
Merci, monsieur Trump. Une des conséquences totalement inattendues de cette guerre, c'est Vincent Moscato, hein, qui passait justement ses vacances à Dubaï et qui se retrouve coincé là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le super Moscato Show.
Coincé, faut le dire vite, Apolline, faut le dire vite. Quand t'es coincé au boulot, oui, t'es coincé, mais quand t'es au bord de la piscine, j'appelle pas ça coincé, tu vois. Je te raconte, j'étais au bord de la pistache, tu vois, tranquille, façon séducteur, tu vois, avec le maillot léopard classique. Puis j'entends que ça pétarade, je me suis dit, bon, c'est Dubaïote, tu sais, ils sont bling-bling, ils font des feux d'artifice tous les jours pour un oui, pour un non, tu vois. Puis même si je me disais, c'est en plein jour, c'est comme faire un d'artifice en plein jour, tu vois, que dalle, quoi. Puis là, tout d'un coup, je vois quoi? Toutes les gonzesses, tu vois, toutes les gonzesses, genre influenceuses, tu vois, qui tournaient des vidéos pour la pistoche, qui lâchent leur perche à selfie, tu vois. Ils se barrent en courant à l'intérieur de l'hôtel, façon panique. Il manquait que la musique de Bénil, tu vois. Et là, je vois un truc qui arrive sur moi. Je dis, je suis en date tranquille, donc je lève ma carcasse, je vois très vite le truc, je l'attrape, le truc, je réflexe de rugbyman, tu vois. Je fais drop direct, tu vois, avant un deux, tu vois. Le bordel, il se plante à 200 mètres de là, tu vois, il explose, il fait un gros boom, sur une île, rasée, les palmiers, plus d'arbres que dalle. Ouais, alors, il y a un monsieur qui arrive et qui me dit, monsieur Moscato, comment faire ça? Parce qu'apparemment, c'était un missile iranien. C'est pas passé loin, t'imagines, il me dit comme moi. Et qui c'est qui me remplace pour le super Moscato Show? Antoine Dupont, et tu vois le truc, bienvenue au super Dupont Show.
Ah oui.
Dupont Show, putain, c'est bien pour une radio pays. Revienne, pas pour rien, monsieur.
Soyez prudent quand même, hein, Vincent. Hein.
Ah ben là, je ne sors plus d'hôtel.
Ah oui.
J'ai consulté Alain Bauer, il m'a dit au téléphone, il m'a dit je ne sors plus d'hôtel. Je fais mon émission, tu vois, quand même, à distance, tu vois, tranquille, confiné à ma chambre, dans des conditions difficiles.
Vous allez entendre une détonation là, Vincent, ça va?
Non, ne t'inquiète pas, c'est juste au room service qui vient de déboucher un magnum de champagne pour le petit-déj.
Ah,
la guerre comme la guerre.
Bien sûr, merci beaucoup, Nicolas. Merci à Alain Bauer d'avoir joué le jeu avec nous ce matin. Dans un instant, les GG en direct de Nice, Alain.
Les grandes gueules en direct de Nice tout à l'heure, de 9h à midi. Attention, élection municipale, nous serons à la Villa Massina en direct et en public avant le grand débat du soir, bien sûr sur BFM TV et BFM Nice. Nous y serons à Nice en direct et en public avec Charles Consigny, l'avocat Joël Dagosséry, la coach de vie, et le cheminot Bruno Poncet. Amis niçois, mes chers compatriotes, je compte sur vous.